O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Temstad 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Je suis aujourd'hui avec Laura et Liliana. Comment ça va les filles ?
Ça va super et vous ?
Super, merci.
Eh bien ça va très bien, très belle journée aujourd'hui ce 15 novembre puisqu'aujourd'hui, alors aujourd'hui au programme, tout simplement le gala annuel de Cap Magellan. Et oui, émission spéciale, restez avec nous pour 2 heures d'interview et de musique en lien avec la programmation de ce beau gala de remise de prix. On commence tout de suite après l'événement de la semaine dans lequel Laura vous détaillera le programme du gala. Et en attendant, je vous laisse avec une chanteuse qui ne sera pas au gala, je suis désolée, mais qu'on adore tous quand même. C'est Ludmilla et son dernier titre, Whisky con agua de choldo.
Pra você, jurei promessas de amor. Levei tempo pra voltar pra mim, me pedindo que a gente já foi. Tão rápido, intenso, marcado no peito, já sem sentimento, mas muito desejo. Me pega pensando no teu corpo, te ver deitado na minha cama. O que era seu ainda tá na garagem, o que era nosso ficou na lembrança. Meus pensamentos intrusivos dizem que eu tenho que ficar longe de você. Neuroses, problemas, preciso de tempo.
Olha eu de copo em copo, querendo teu corpo a corpo. Bebendo de bar em bar, uísque com água de choro.
Posso sumir lentamente, mas uma coisa cê não vai esquecer. Uma guerra travada na mente, no final só sobre o que a gente sente.
Eu amo o jeito que cê mente, prometendo amor pra não me perder. Que pena foi mais um pra sempre, só restou saudade, não era pra ser. Paz, 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 volta você no meu baile. Socando, socando até tarde. Eu acho que eu já demais, mas se eu andar um carro, você vai. Olha eu de copo em copo, querendo teu corpo a corpo. Bebendo de bar em bar, uísque com água de choro. Qual é a necessidade da gente longe um do outro? Bebendo de bar em bar, uísque com água de choro. Olha eu de copo em copo, querendo teu corpo a corpo. Cidade, tá de longe um do outro. Bebendo de bar em bar, uísque com água de choro.
C'est le moment de l'événement de la semaine sur Temstad 2.1 et cette semaine, évidemment, on vous présente le gala de Cap Magellan qui commence dans moins de 2 heures.
Et oui, aujourd'hui focus sur un grand rendez-vous donc de la communauté lusophone à Paris, le gala de remise de prix de Cap Magellan qui se tient, qui va se tenir dans quelques heures à l'auditorium de la Sorbonne. Donc c'est un gala qui est organisé par Cap Magellan et qui célèbre depuis des années la langue et la culture portugaise en France. C'est à la fois une cérémonie de récompense et une vraie fête culturelle qui sera présentée comme l'année dernière par Diane Cardoso Gomes et José Carlos Marato. Pour 2025, la formule rassemble remise de prix, performance musicale et animation participative. Il y aura notamment des concerts de Miguel Moura, Miguel Sol et Marco Freire, la Tune Académica de Escola Superior de Educação do Porto et un quiz interactif en direct qui testera les connaissances du public sur la lusophonie avec évidemment un prix pour le grand gagnant. Côté prix, Cap Magellan remettra chaque année, cette année, 4 prix financiers de 1500 euros chacun, ainsi qu'un prix artistique non financier pour valoriser les talents et initiatives lusophones. C'est une excellente occasion pour repérer des projets, des jeunes créateurs et des initiatives citoyennes qui font vivre la culture portugaise ici en France. Et bien sûr, on pourra se retrouver dès la fin de la cérémonie pour un buffet convivial servi par Kenerge et on a hâte de goûter tout ça. En bref, une belle soirée mêlant musique, prix et partage autour de la lusophonie. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Merci beaucoup Laura. Et d'ici 5 minutes, nous serons d'ailleurs en interview avec la Tuna, Tunae do Porto. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Luz no Escuro de Tiago Betancourt.
A luz no escuro, a luz no escuro eu vi. A luz no escuro, a luz no escuro, a luz no escuro.
Rádio Alfa para o programa Temos Estado 2.1. Estamos em entrevista com a Tuna Tunae do Porto. Olá, Diogo. Espero que esteja tudo bem contigo.
Tudo bem, com vocês também?
Também, obrigada. Sim. Tu és então magíster da Tuna Ezepus Tunae, não é? Do Porto.
Exatamente. Exatamente.
Podes começar por apresentar a Tuna e como e quando nasceu o grupo?
Então, nós começamos já há algum tempo atrás, já temos 32 anos de existência. Isto começou tudo num pequeno, podemos dizer, um tasco, acho que sabem o que é, assim, onde um grupo de amigos se juntou e que fez um pequeno grupo de fados e daí foram entrando mais e mais pessoas e ao longo do tempo transformou-se na tuna que é hoje.
Ok. E qual é o processo de integração no grupo?
Então, basicamente, as pessoas entram na Escola Superior de Educação como calouros e a partir daí têm todo o direito de ir aos nossos ensaios e a partir do momento em que estão nos nossos ensaios começam a perceber o que é este grupo, ficam integrados, começam a ir connosco para todo lado e tornam-se membros como nós.
E há alguma especificidade da vossa tuna que, por exemplo, não se encontra em outra? Não sei.
Eu costumo dizer que nós temos uma coisa diferente em palco. Eu não, até hoje, eu ando há 6 anos na tuna, não consigo explicar. Mas acho que temos um clique muito bom em palco e uma energia em palco. Que muitas das vezes, não desmerecendo nenhuma tuna, que muitas das vezes eu vejo e sinto que é diferente de algumas, e acho que é isso que nos difere.
Vamos ver isso então, porque vocês vão atuar na gala da Cap Magellan em Paris. O que é que isso representa para vocês?
É muito importante para nós conseguirmos dar este salto, porque Isto é um trabalho que não é só o meu. Eu não sou magister assim há tanto tempo. Acho que é um trabalho de já de alguns magisters atrás. E realmente a nossa turma tem vindo a crescer a largos passos, ano a ano. E acho que este ano fazia todo o sentido dar assim um passinho e conseguir sair de Portugal. E surgiu-nos o convite. E é muito importante para nós, porque é sinal que andamos a fazer as coisas direitas, senão o convite não chegava.
E qual é a música que nunca pode faltar em nenhuma atuação e porquê?
Então, nós temos o nosso hino, não só da nossa tuna, mas também da Escola Superior de Educação, que se chama Capa de Estudante, que basicamente fala sobre uma coisinha que nós andamos sempre, que é a nossa capa. No nosso traje andamos sempre com a nossa capa e basicamente é uma coisa que anda connosco sempre, desde o momento em que nós colocamos o traje até ao momento que passamos a veteranos e já não temos que usar sempre o traje, ela anda sempre connosco, portanto acho que essa é a música que nunca pode faltar, seja a atuação que for, acabamos sempre com essa música.
E tem algum ritual ou uma tradição especial antes dos espetáculos?
É assim, nós costumamos sempre a falar entre nós. Nós temos a sorte de quem nos ensaia ser membro da tuna também, portanto ele dá sempre a palavra de ordem nesses momentos, pá, mas sei lá, nós somos, estudamos muito, pá, bebemos muito pouco, mas gostamos se calhar de beber um bocadinho, muito pouquinho, antes de subirmos, só para descontrair.
Atenção, beber é perigoso, está bem? Para os ouvintes,
gente,
não é?
A gente sabe que não se pode fazer.
Com moderação.
Sim, claro.
Então, qual foi a vossa atuação mais memorável até agora?
Eu posso falar por mim. Eu acho que nós estamos com uma... temos tido a sorte de conseguir ganhar um festival já há 3 anos, vamos agora para o quarto ano a ir lá, e acho que numa delas, não consigo dizer qual é que foi a mais especial, mas atuar naquele espaço para nós é muito especial, tanto para mim, tanto para qualquer membro da tuna novo e que já teve a sorte de viver, e eu tive a sorte de viver esses 3 anos. Realmente é muito especial estarmos sempre nesse festival, que é em Bayon. Não sei se conhecem Bayon, mas é em Bayon. É para o norte, bem para o norte. Okay.
E vocês somos estudantes, e eu queria perguntar, como achas que a tuna contribui para a vida académica e cultural da Escola Superior de Educação do Porto?
Eu acho que felizmente, a vida académica na Escola Superior de Educação do Porto é muito boa, porque existe muita variedade para o que a malta quiser. Claramente que para estar na Tuna temos que estar integrados à praxe, porque foi assim uma coisa, foi o que decidimos e continuamos a fazê-lo, é uma tradição que continuamos a mantê-la. Mas lá está, eu acho que acima de tudo tira medos e cria laços. Acho que acima de tudo é isso. Tira medos de enfrentar um público que para nós é importante, porque vamos enfrentar um público muito difícil, que é as crianças, que é dos públicos mais difíceis que nós temos, e cria laços, porque eu costumo dizer que a Tuna é a minha segunda família. E já ouvi outras pessoas a dizer que em situações menos felizes escolheram primeiro ir ter com a família Tuna do que propriamente enfrentar a sua família. Então eu acho que é isso muito que a Tuna consegue criar, e acho que é muito bonito.
Também acho, é muito bonito. E o que é que aprendeste pessoalmente com a Tuna?
Eu acho que foi a Tuna que me ensinou a ser um pequeno homenzinho no início. Quando passei dos 18, 19 e 20, ensinou-me a ser homenzinho. Pá, mas ensinou-me a ter, acima de tudo, responsabilidade, e com o cargo que eu tenho, acho que me tem vindo a ensinar a liderar, o que é bom. E lá está, pode ser muito, muito importante na minha vida profissional. E acho que, acima de tudo, foi isso que a Tuna me conseguiu ensinar.
Então, para acabar, aconselhas a toda a gente, a todos os estudantes, a entrar numa Tuna?
Sim, por favor, façam isso. Não se vão arrepender. São mesmo os melhores anos da vida de uma pessoa, na verdade. Acredito mesmo nisso.
Muito obrigada, Diogo.
Obrigado.
E estamos ansiosos por ver-vos no palco, então.
Sim, lá estaremos e faremos um ótimo trabalho.
Obrigada, Diogo, e fica connosco, voltamos logo depois para a entrevista com a apresentadora dessa gala, Diane Cardoso Gomes, e antes disso vamos ouvir Caloiro Até Veinho, da Tuna do Porto.
Eu um dia fui caloiro, a saudade que senti, foram os meus tempos doiro, nesta Tuna que vivi, recordo belos momentos, e os amigos que ganhei, falo dos meus sentimentos, esta é a Tuna que eu amei. Mais um dia que passa,
sur Radio Alpha. Vous arrivez à temps pour l'interview avec Diane Cardozo Gomez.
Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien.
Bonjour Julie, ça va et toi?
Ça va très bien, je suis très contente de te recevoir enfin sur Tempstad de Spontoon. Diane, cette année, tu es présentatrice pour la deuxième année consécutive du gala de remise de prix de Cap Magellan en duo avec le Malato. Qu'est-ce que représente cette expérience pour toi?
C'est une expérience enrichissante, déjà au niveau personnel et professionnel. C'est vrai que c'est un plaisir pour moi de représenter cette culture lusophone aux côtés de Malato, que j'apprécie énormément. Et je remercie encore la confiance de Cap Magellan pour cette deuxième année, comme tu dis, consécutive. J'ai cette opportunité de présenter le gala, donc je suis vraiment très heureuse de cette confiance.
C'était la première fois que tu le faisais, que tu faisais un tel exercice l'année dernière.
Oui, 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 tout à fait. C'était une première pour moi et ça s'est extrêmement bien passé. Donc, c'est vraiment une sensation de comment dirais-je, je suis vraiment contente de présenter ce gala parce que pour moi, c'est une façon de valoriser vraiment des artistes. Des personnes qui ont des projets extrêmement importants. C'est vrai que mon média, on en parlera par la suite, mais je mets en lumière vraiment des parcours qui inspirent la jeunesse. Et vraiment, là, on va voir un panel de personnes et de projets qui sont vraiment très intéressants. Donc, j'ai hâte de pouvoir faire ça de nouveau cette année.
En tout cas, sache que tu gères comme une chef, vraiment. Et je trouve que le duo Malato-Diane, il est assez marrant, il fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce duo que tu formes avec Malato?
C'est vrai qu'on a, une très bonne complicité. J'avoue que c'est un plaisir de présenter ce format-là avec lui. C'est nouveau pour moi et en même temps... ça s'est tellement bien passé à ses côtés que j'ai pas du tout d'appréhension de refaire cet exercice en effet cette année. Donc c'est que du bonus. C'est quelqu'un d'extrêmement comment dirais-je de sociable. Il met à l'aise très facilement. Donc pour moi c'est un plaisir vraiment.
Et ton média, faut évidemment qu'on en parle, Paris Latina News. Tu l'as créé pour partager ta curiosité et ton intérêt pour la péninsule ibérique et le continent luso-américain, comme tu l'expliques sur ton site, que j'invite tout le monde à aller consulter, évidemment. Tu n'es pas journaliste de formation. Comment est-ce que tu t'es formée au journalisme et pourquoi est-ce que tu as voulu aller dans cette voie-là?
Eh bien, en effet, je n'ai pas de formation de journaliste, mais j'ai eu des expériences professionnelles où j'ai été amenée à travailler dans les médias, avec les médias. Donc, cette expérience-là m'a servi. Après, j'ai toujours été assez à l'aise avec la communication, donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. C'est vrai que j'ai fait des études de langue, j'ai fait des études de commerce international, j'ai travaillé dans beaucoup de départements qui gèrent la communication. Donc pour moi, c'était assez naturellement que je me suis retrouvée dans ce secteur des médias. Et voilà, je suis quelqu'un de très curieux et c'est vrai que d'avoir mon propre média pour moi m'a paru logique et je suis sans cesse en train de me former. Donc voilà, et je pars du principe où ce n'est pas parce que on n'a pas suivi une formation étant plus jeune qu'on ne peut pas justement se reconvertir, au contraire, et c'est ce que je dis souvent dans les interviews, on donne des conseils aux jeunes justement pour se lancer dans tel ou tel secteur d'activité et de réaliser leurs rêves, même si au départ ils n'étaient pas forcément ils n'allaient pas forcément se diriger vers cette voie là justement tout tenter et ne rien lâcher pour exercer leur rêve et leur profession.
C'est un très beau message et je pense que ton parcours aussi illustre bien ça et peut être aussi un parcours modèle pour certaines personnes. Et justement, tu le disais, tu réalises principalement des interviews pour mettre en avant les parcours de lusophones, d'hispanophones et pour inspirer les jeunes. Comment est-ce que tu choisis du coup les personnes que tu mets en avant?
Alors, c'est assez... aléatoire, c'est-à-dire que soit je l'ai choisi moi en fonction de l'actualité, en fonction aussi des événements auxquels je participe. Il y a aussi des demandes qui ont été faites via LinkedIn ou via Instagram, donc via les réseaux sociaux. Donc après, voilà, on passe un premier entretien ensemble pour voir si le projet qui est proposé ou si justement la personnalité est compatible et répond aux mêmes valeurs que Paris Latina News. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc voilà, ça se fait comme ça. Et puis parfois, il y a aussi des connexions qui se font par d'autres ou des personnes qui me recommandent tel ou tel artiste, telle ou telle personne. Ça peut aussi se faire de cette façon-là, oui.
Et sur les 3 artistes musicaux du gala, tu as déjà interviewé d'ailleurs Miguel Sol. Donc,
c'est vrai.
Vraiment, les connexions, tout est lié finalement dans cette communauté.
C'est vrai, oui, bah forcément, on va retrouver des personnes avec lesquelles j'ai déjà été en lien. Mais encore une fois, ce sont que des rencontres qui apportent vraiment de belles choses à cette communauté lusophone. Et je suis vraiment ravie de pouvoir les accompagner dans leur projet et leur donner la visibilité qu'ils méritent.
Oui, vraiment, ton média, c'est l'humain avant tout. Et ça se sent, ça se voit, comme pour ta présentation au gala et pour même toute ta personne, en fait, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a, pour finir, un projet en particulier que tu aimerais partager avec nous? Quelque chose qui arrive, peut-être, je sais pas, ou pas?
Alors des projets, j'en ai beaucoup. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses, beaucoup voyager. C'est vrai que j'ai tendance à aussi beaucoup partager, parce que c'est ça aussi Paris Latina News, c'est inspirer mais aussi transmettre, partager. Donc c'est vrai que là j'ai un petit projet qui serait de visiter un petit peu toute l'Amérique latine en van. Voilà, c'est l'idée. Donc, à voir, ça se fera pas tout de suite, mais voilà, c'est un projet que j'ai, oui, tout à fait.
Bah, très beau projet, tu nous tiendras au courant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et puis on se voit tout à l'heure au gala.
Avec grand plaisir. Merci, Julie.
Encore merci Diane, on a hâte de te voir sur scène avec Malato tout à l'heure. Restez avec nous, d'ici 5 minutes nous serons en interview avec l'uso-descendant Marco Freire. Et avant cela, nous allons écouter une musique que Diane aime beaucoup, c'est Respirar de Kalema avec Sara Curey.
Solta no chão, danço nas asas de furacão. Esta é minha casa, sigo lindo. Eu sou a estrada, eu sou.
Viver da luz da vida e dar-lhe um nome. Fugir da confusão que nos consome. Não é preciso muito mais que diminuto olhar o céu.
Pensarmos, vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia.
E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar.
Todos os dias de manhã, a melodia e encher o nosso peito de amor no amanhecer. Oh, oh, oh.
tremo tanto sem cobrar. E eu nem sabia. Agora eu sei que para
sur Radio Alpha pour l'émission Tempestade de Chponton. Nous sommes en interview avec le chanteur luso-descendant Marco Freire qui va chanter d'ici une heure lors du gala de Cap Magellan.
Hello Marco, j'espère que tu vas bien.
Ça va très bien. Bonjour, tu vas bien?
Ouais, ça va très bien. Je suis très contente de te rencontrer pour la première fois. Marco, tu es un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète et musicien. Beaucoup de cordes à ton arc. Tu as un style indie, boisé, moderne et minimaliste. Comment est-ce que tu décrirais simplement ta musique à quelqu'un qui ne la connaît pas?
Je décrirais ma musique exactement comme tu viens de la décrire, quelque chose d'assez minimaliste qui part d'un guitare-voix et qui se joue très simplement là-dessus, quoi. C'est un guitare-voix, c'est de la chanson française avec des twists d'autres genres et de tout un tas d'influences. Voilà.
C'est quoi justement tes principales influences, vraiment si tu devais citer quelques artistes phares qui t'influencent quand tu écris?
Déjà en fait j'écoute beaucoup de musique anglophone, donc je pense que ça a un gros impact sur ma musique, et ça a eu un gros impact sur ma musique. De base je viens pas vraiment de la chanson française, mais du coup je découvre un peu, et il y a des artistes comme Camille, Mathieu Bogart, Alban de la Simone, qui sont hyper intéressants et qui ont des super projets. Sinon moi là d'où je viens c'est aussi des artistes un peu folk, genre des années 90 aussi, genre des mecs comme Jeff Buckley ou des Elliott Smith, des artistes aussi multiculturels, genre Lasad Sela, qui est une artiste genre absolument géniale. Donc tout un, en fait il y a plein de références différentes, mais les quelques artistes que j'ai cités, ouais, je tire un peu de tout ça. Et après avec les trucs que j'écoutais quand j'étais plus petit et les trucs que j'écoute maintenant, et j'essaie de faire un micmac de tout ça. Mais du coup, j'observe un peu et je fais un engrenage de tout ce petit, de tout ce petit monde.
Et puis tu trouves ta propre, ton propre style. Et je trouve que ça se ressent dans ton premier single, du coup, qui est sorti le 24 septembre dernier. Ça s'appelle Le Vœu. Quels ont été les retours? Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes?
De ouf, en vrai, ouais, carrément. C'était carrément. Je m'attendais à pas grand-chose. C'est un premier titre. C'est pas mettre ce que je vais dire, mais en gros, j'avais déjà sorti d'autres titres il y a 2-3 ans. C'était des titres qui me ressemblaient pas forcément, c'est pour ça qu'ils sont plus sur les plateformes. Donc ce nouveau premier titre, tu peux reprendre si tu veux, mais ce nouveau premier titre du coup qui est Le Vœu, je suis content. Au-delà des retours, je suis content de la musique telle qu'elle, et parce que je trouve que ça me ressemble, je trouve que j'ai pris le temps de cultiver toutes les références et toutes les influences dont je viens de te parler pour essayer de faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Et en vrai, j'ai eu des super retours de plein de gens que je connaissais pas ou que je connaissais de proches aussi, et j'ai eu des retours cool, donc je suis content. Ou justement ce truc de ça te ressemble, et ça te ressemble, et pour moi c'est le meilleur retour qu'on puisse faire à un artiste en développement, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Le plus important, c'est vraiment d'être aligné avec ce que tu es et te montrer tel que tu es, en fait, au public. Et c'est comme ça que tu vas créer ton propre public et ta petite communauté qui ne cessera de grandir, je te le souhaite. Et toi, enfin, du coup, si t'es là, c'est quand même que t'es portugais. Est-ce que les gens qui écoutent ta musique savent que tu es portugais? Est-ce que t'as des portugais qui te soutiennent, à part nous, du coup?
Ouais, carrément. Les gens qui tombent ou qui ne connaissent pas le projet, je pense pas à premier abord qu'ils sachent que je suis portugais. Même si Marc Frey, c'est vrai, quand même, ça peut être un indicateur. Mais en tout cas, dans ma musique, je vends pas mon projet, mais je me présente comme ça. Je me présente en tant que jeune franco-portugais d'une mère française et d'un papa portugais. En live, en fait, j'en parle, et comme j'ai des morceaux aussi en portugais, j'ai deux morceaux en portugais dans mon répertoire là en ce moment. Et du coup, c'est vraiment un truc que je mets en avant aussi, naturellement, parce que aussi j'ai grandi au Portugal. Moi, je suis né en France, mais on est vite retourné habiter au Portugal avec mes parents. J'ai grandi à Lisbonne, ma famille est de Porto. Donc, même au sein du côté Portugal et portugais de ma vie et de ma famille, il y a aussi un mix de cultures du Portugal entre le nord et le sud. Et je m'éloigne un petit peu de la question, mais bref, c'est cool. Et du coup, ouais, donc comme j'ai grandi au Portugal, il y a quand même pas mal de potes à moi portugais qui me suivent, de la famille Portugal qui me suivent et qui me soutiennent. Et c'est marrant, l'autre jour, j'ai eu un message d'un monsieur. Alors, on n'est pas sur des Portugais, mais j'y viens, petite anecdote. J'ai reçu un message d'un monsieur qui est venu avec son fils et qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le set. Et il a parlé d'une chanson notamment qui est en franco-portugais qui s'appelle A Chuva. Et il m'a dit que ça l'avait beaucoup touché parce que sa femme est brésilienne, lui est uruguayen. Et en fait, le portugais, c'est leur moyen de communiquer. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Il m'a dit que ça l'avait touché. Et voilà, du coup, c'est cool aussi le fait de, je sais pas, ce petit rapport. C'est la première fois qu'on, même si on parle d'une personne brésilienne et uruguayenne, le fait, je sais pas, que ce soit quelque chose de lusophone, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, ok, c'est cool aussi qu'il y ait ça dans ma musique et que ça puisse parler à du monde, quoi. Voilà.
Ouais, c'est sûr. Non, franchement, c'est un trop beau témoignage, je trouve. C'est trop mignon. Et je pense que la musique et le fait que tu puisses chanter dans les deux langues, ça permet de faire un pont dans ta double culture, et pas seulement pour les gens qui sont franco-portugais, mais aussi pour ceux qui ont une autre double culture, en fait. Et c'est beaucoup ce que j'entends, donc c'est top. Et du coup, tu as déjà fait plusieurs concerts. Qu'est-ce que tu présentes un peu sur scène ?
Eh bien oui, tout à fait. J'ai fait plusieurs concerts là cette année. Moi, ma formation, c'est vraiment une formation simple. Je suis en guitare-voix. J'ai une guitare classique, électro-classique que je branche. J'ai un pied qui fait un kick que j'envoie de temps en temps sur quelques chansons, qui est assez varié. Il y a de la dynamique et tout. Et là, depuis peu, j'ai ajouté une petite machine, une TCL Icon. C'est quelque chose qui vient modifier la voix. C'est vraiment pour la voix où j'active et ça vient créer aussi du relief, de la dynamique, un peu de digital aussi au set. Donc, mélanger à ça le côté classique guitare-voix et de la guitare classique aussi. On est là-dessus. Et j'ai fait pas mal de premières parties, du coup, là aussi, les dernières semaines pour le festival de Marne. Et c'était vraiment cool. Du coup, pareil, dans cette formation de guitare-voix, et ce que j'aime aussi, parce que ça me permet de montrer mes chansons telles quelles. Et comme je compose aussi en guitare-voix, que ce soit tout seul ou avec d'autres auteurs ou des autrices, je sais pas, ça me fait du bien de jouer en guitare-voix. J'ai l'impression de présenter les chansons telles quelles. Et pour le moment, ça me va et je trouve que cette formation est vraiment cool. Donc voilà, c'est ce que je présente en live.
Trop bien. Et justement, si t'es ici, c'est parce que tu vas performer lors du gala de Cap Magellan à la Sorbonne. Comment est-ce que tu te sens face à ce concert et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que tu vas nous présenter?
Je me sens bien et je suis un petit peu stressé quand même. Je vais chanter un morceau en portugais qui s'appelle Casinha. Je vais chanter un morceau avec un autre artiste qui s'appelle Miguel, qui est portugais aussi. Je suis hyper content, franchement, quand Cap Magellan m'a contacté, surtout que j'étais au téléphone avec mon père tout à l'heure. Bref, on a parlé un peu de Cap Magellan. Et en fait, ça fait des années qu'il me dit, mais tu devrais connecter avec Cap Magellan pour faire quelque chose. C'est sûr, il y a moyen, c'est une énorme asso. Donc, il était très content que je fasse ça. Et par rapport au concert, je suis hyper content. C'est un bête d'honneur. Ça va être quelque chose de super. Et je suis ravi de participer à cet événement. Un peu de stress du coup par rapport à, au fait de jouer devant un public aussi lusophone, c'est un petit stress toujours pour moi parce que j'ai la double culture et en même temps je me sens la maison et en même temps je me sens le besoin d'être carré dans ce que je dis. J'ai peur de mal dire les choses ou quoi, mais dans mes paroles bien sûr. Mais au final tout va bien se passer, j'en suis sûr. Il y a une très bonne ambiance, voilà.
Oui, tout va très bien se passer. On est tous très bienveillants. On a hâte aussi de te découvrir. Mais je comprends quand même le stress. C'est vrai que chanter devant sa propre communauté, surtout si d'habitude ton public n'est pas forcément lusophone, ça doit créer un petit stress, ouais. Et du coup, pour finir cette interview, est-ce que tu veux nous parler, nous donner des petites exclus de nouveaux projets qui arriveront peut-être courant 2026?
Absolument, absolument, grave, bien sûr. Les prochaines actus là que je vais avoir, je vais avoir un concert en tête d'affiche qui sera au Solo Théâtre, c'est dans le 11e à Paris, à métro Oberkamp. J'avais déjà fait un concert là-bas en mai 2025 et là du coup j'ai un autre concert en tête d'affiche, ça va être le 20 janvier 2026 au Solo Théâtre Bon, je le dis, mais je suis pas sûr, mais il y aura peut-être un morceau à ce moment-là aussi qui sortira dans ces alentours, dans ces eaux-là. Donc, je suis très content. Ça, c'est dès la rentrée. Ça annonce bien la rentrée. Et puis, j'espère et je compte sortir aussi d'autres morceaux durant l'année 2026. Et voilà, quoi.
Bah, trop cool. On a hâte de suivre tout ça. Est-ce que tu veux rappeler tes réseaux sociaux, peut-être?
Ouais, clairement, c'est un peu partout, YouTube, Insta, TikTok, c'est Marco Ferreira. Et vous avez toutes les actus, des dates, des morceaux qui vont sortir, des petites vidéos et tout, donc n'hésitez pas à aller checker ça.
Trop bien, on a hâte, tu nous tiens au courant et on a super hâte de te voir au Gala de Cap Magellan tout à l'heure.
Trop bien, merci beaucoup, hâte d'être sur scène, merci.
Merci Marco. Nous continuons dans 5 minutes avec Miguel Sol, l'artiste qui chantera en duo avec Marco. Mais avant cela, je vous laisse découvrir Le Vœu de Marco Freire.
On verra si le jeu vaut le cran. Coup de feu, coup de fouet, aux enjeux, aux envies d'être heureux. On fera peut-être un vœu si on peut comme on veut. On verra si la vie, coup de poil, de génie, coup de cœur, éclaircit la plus noire des nuits. On fera peut-être un vœu, si on peut, comme on veut. On verra à la vie si je tiens, si je crie. Coup du sort dans les mains, je dessine les deux mains. On fera peut-être un feu si on peut comme on veut.
Proibido. fille quoi qu'un seul, se dévoile un seul sur des vos cœurs. Un mina en me chama tentação, aperto no coração, fico com alta tensão. E o sabor do proibido ecoa no meu ser. Oh fruto proibido, oh fruto proibido. Meu fruto proibido, meu fruto proibido. Proibido. Até sei, eu sei que na atração não existe lei.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Tempstad d'Auge-Ponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous continuons dans cette émission spéciale Gala de Cap Magellan et nous sommes en interview avec le chanteur Miguel Sol. Bonjour Miguel, j'espère que tu vas bien.
Bonjour.
Miguel, du coup, tu es un chanteur dont le groove latino nous fait tous danser. Tu chantes en portugais, en français et en espagnol. Pourquoi avoir choisi justement de ne pas choisir entre les trois langues?
c'est une bonne question en soi. Ben voilà, en fait, moi j'ai toujours ce truc-là de. Tu sais, quand on est franco-portugais, voilà, je vais mettre un petit peu l'accent plus sur le français et sur le portugais si tu veux bien. Voilà, il y a toujours ce truc-là d'être un petit peu. Un peu le cul entre deux chaises, hein, excusez-moi de parler comme ça. Voilà. Et moi, j'avais pas envie de choisir d'une certaine manière. Sincèrement, j'avais pas envie de choisir l'un ou l'autre parce que moi, je suis d'origine portugaise. Donc, mes parents sont portugais, venus travailler en France. Et moi, je suis né en France. Donc, voilà, je suis donc aussi français, je suis portugais. Et voilà, donc mon public, je pense que ça lui fait chaud au cœur et ça lui fait plaisir aussi d'entendre du français et du portugais. Donc, moi, ça me. Et puis, en fait, quand j'écris aussi un titre. Eh bien, ça vient comme ça me vient, ça peut venir en portugais, ça peut venir en espagnol, pour le coup, et en français. Donc voilà, j'avais pas envie de choisir, j'avais envie de laisser vraiment la porte ouverte à l'inspiration. Et voilà, ça me tient à cœur en tout cas de pouvoir chanter. Et puis c'est un jeu aussi, tu vois, de pouvoir jongler un petit peu en fonction du mood, en fonction de l'humeur. De pouvoir être de pouvoir chanter en français, en portugais, et des fois de mêler aussi les deux textes et les deux langues dans une chanson. Ça m'arrive aussi.
Parce que du coup, tu choisis pas en fonction d'un thème en particulier, c'est vraiment au feeling. Quand tu écris, c'est vraiment ce qui te vient et voilà quoi.
Il y a un peu de ça, mais bon, après, effectivement, le thème peut y jouer. C'est sûr que si c'est festif, si c'est moins festif. Donc, j'essaie quand même qu'il y ait une cohérence dans l'écriture. Et c'est vrai qu'il y a des textes qui sonnent différemment, en portugais ou en français. Donc, en fonction, je m'adapte et voilà quoi.
Et alors, ton premier album, c'est Carence d'amour. Il est sorti en 2021. Depuis, tu as sorti plusieurs singles, dont d'ailleurs ton dernier qui s'appelle S'en aller. Ouais. Quels sont les retours généralement de ton public? Et d'ailleurs, qui est ton public? Est-ce qu'ils sont français, portugais, espagnol?
En fait, mon public, c'est relativement éclectique. C'est que les personnes viennent de partout. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. C'est pas juste une seule communauté, mais en tout cas, c'est vrai. Que mine de rien, la communauté portugaise et des personnes au Portugal ou en France d'origine portugaise, voilà, j'ai beaucoup de retours de leur part et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et parce que j'écris aussi des fois quand j'écris en portugais, bon, en fonction du mood, du texte, etc. Mais c'est aussi un clin d'œil envers eux, envers ces personnes qui comprennent aussi les textes. Qu'il soit français ou qu'il soit portugais pour le coup et donc voilà je pense que le public j'ai l'habitude de dire j'essaye de construire un viaduc entre le Portugal et la France et c'est vrai que voilà c'est notre communauté mais après j'ai envie de m'ouvrir au monde entier entre guillemets la communauté lusophone est partout présente partout dans le monde donc effectivement En tout cas, pour l'instant, les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent et qui me suivent, voilà, elles sont au Portugal. Voilà, tout simplement.
Et alors, je voulais savoir, toi, tes musiques, comme tu l'as dit, et je suis complètement d'accord, elles parlent à tout le monde. C'est vraiment des musiques que tout le monde peut écouter, aimer. Elles sont tantôt dansantes, mais aussi très touchantes, je trouve, notamment dans les paroles. Quelles sont tes inspirations principales? Est-ce qu'il y a des chanteurs vivants ou morts qui t'inspirent particulièrement?
Il y en a tellement, je pourrais t'en énumérer énormément, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, des artistes, des voix, des textes qui me touchent. Voilà, je sais pas, je vais aller rapidement sur du Gilberto Gil, qui est encore vivant et qui, pour moi, c'est vraiment un phénomène, on va dire, à cet âge-là, d'être sur scène avec cette force qu'il a, ce qu'il donne. Après, Cesaria Evora, qui est partie malheureusement, où c'était vraiment pas que le texte, mais cette la diva, quoi. Quand tu écoutes, quand tu regardes cette personne, il y a tellement de respect, tellement de voilà. Il y a Alfred Mesneir, tu vois, c'est du fado très 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 ancien, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du fado, mais moi, tu vois, c'est des vieilles voix, des voix très marquées, moi, qui me touchent vraiment. Après, il y en a tellement d'autres. Voilà. En tout cas, moi, j'essaye de m'inspirer de toutes ces personnes, de tous ces grands artistes, pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, entre guillemets. Et donc voilà, c'est pas forcément des grands, c'est des très grands et des grands et des moyens ou des petits, voilà, peu importe. Mais en tout cas, s'ils ont un message et qu'ils sont vrais, voilà, du moment que t'es touché, ça, moi, en tout cas, ça m'inspire.
Mais donc, plutôt des personnalités lusophones, quand même.
Ouais, plutôt des personnalités, on va dire, lusophones. C'est vrai qu'après, tu peux aller, effectivement, Cap-Vert, Brésil, ça, c'est vrai que ça me touche énormément. Après, il y a beaucoup de flamenco, parce que je suis aussi guitariste, et il y a beaucoup de guitare ibérique dans mes albums, enfin, en tout cas, dans le deuxième qui va arriver et le premier. Effectivement, voilà, mais c'est vrai que cette partie lusophone, ça me touche plus particulièrement, tout à fait.
Et d'ailleurs, tu rends hommage à la communauté portugaise, notamment dans ton dernier single S'en aller ou Sartre. Pourquoi c'est aussi important pour toi de rendre un tel hommage à ta communauté, finalement?
C'est juste la moindre des choses, en fait. Si tu veux, moi, je suis né en France. Tu vois, j'ai eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir bénéficier de plein de choses, entre guillemets, faciles. Je vais pas parler d'opulence, de choses comme ça, mais c'est vrai que, mine de rien, c'était quand même pas la jeunesse de nos parents, de nos gros-parents, etc. Et donc, moi, j'avais aussi envie de remercier tous ces pionniers, toutes ces personnes qui sont parties du Portugal, qui ont du culot, qui ont eu vraiment un sacré courage de venir sans parler la langue, d'être les premiers partis à pied. Moi, je sais que j'ai des oncles, tu vois, des oncles qui sont venus, bon, ils ne sont pas venus à pied, ils sont venus en voiture et en train, mais voilà, ils ont eu quand même beaucoup de courage, parce que se déplacer, d'aller dans un autre pays sans personne, entre guillemets, qui peut t'accueillir, voilà, ça demande beaucoup de cran, c'est du culot. Et voilà, moi, j'avais envie de remercier tous ces gens-là et de pas oublier, parce que souvent on dit, on fait partie d'une communauté, etc. On est très fiers, on est très contents, on met des t-shirts. Et l'été, c'est super de revenir au bled, j'ai envie de dire, au pays. Mais faut pas oublier, moi, je pense qu'il faut surtout pas oublier le début, comment il a été difficile. Et voilà, c'est pas de rester dans de la nostalgie, tu vois, il faut regarder vers l'avant et vers le futur. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien, des fois, de revenir et de se dire, non, ils ont passé par tout ça. C'est grâce aussi à eux et grâce à tous ces sacs qu'on est là à l'heure d'aujourd'hui, et qu'on peut aussi revendiquer des choses, faire de l'art. Voilà, au temps de Salazar, effectivement, au South, c'était l'art, la musique, la paix, etc. C'était pas trop bien vu. Et donc, on a beaucoup de chance, entre guillemets, même s'il y a encore plein de choses à faire. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à notre communauté, à ces gens-là, et aussi à Gérard Bloncourt, parce que, mine de rien, tu vois, la source d'inspiration de ce titre, c'était bien sûr la communauté, mais aussi à travers le regard de Gérald Blancourt, qui est un grand artiste, peintre, journaliste, photographe, et là notamment photographe avec ce livre, cet ouvrage qu'il a fait, qui s'appelle Pour ma vie d'amour. Et voilà, des photos incroyables. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Sincèrement, j'ai eu les larmes aux yeux en voyant des enfants, des gens marcher dans la boue en hiver, dans des conditions spartiates de vie. Et voilà, moi, tous ces gens-là, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et c'était la moindre des choses de leur rendre hommage en ce titre.
Oui, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est un très bel hommage que tu leur fais. Donc vraiment, félicitations et merci pour ça. Et si tu es ici aujourd'hui avec moi, c'est parce que tu vas performer lors du gala de Cap Magellan à la Sorbonne. Comment est-ce que tu te sens face à ce concert? Et surtout, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ta performance?
Ah bah écoute, moi je me sens très très bien. J'ai hâte d'y être. Hein, pour te dire, j'ai hâte d'y être. Voilà, ça va être particulier, je pense que ça va être particulier. Moi je vais essayer de faire de donner ce que je sais, quoi. Enfin, j'essaie d'être vrai pour le public, j'essaie de donner de l'émotion, que ça soit dans quelque chose de festif ou nostalgique ou autre. J'essaie toujours de donner l'émotion, d'essayer d'aller puiser à l'intérieur de moi. En tout cas, si j'arrive à toucher le public, ça sera super. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Je trouve que c'est un beau gala. Je suis très très fier de représenter ce petit moment musical, en tout cas au gala 2025. Et donc j'ai hâte d'y être, tout simplement.
On a hâte de voir ce que tu vas nous donner musicalement parlant et émotionnellement parlant. D'ailleurs, je t'ai déjà vu sur scène et je peux dire que c'est vraiment très sympa à voir. On passe un très bon moment avec toi et avec tes musiciens. Est-ce que tu as des nouvelles dates de prévues où on pourra te retrouver à Paris ou ailleurs?
Ouais. Bah en fait là, si tu veux, là, je suis très content d'annoncer peut-être avec Tamstad, avec toi-même, c'est le second album. Tu vois, il est parti en pressage, donc là, c'est dans les tuyaux. Donc on est très heureux. Bientôt, ça va arriver. Donc l'objet physiquement, il sera présent. Donc il va pouvoir être partagé. Là, je t'avoue que je travaille sur 2026, hein, des dates de concert. Ça sera en 2026, il y en aura, et il n'y a aucun souci. On est encore un petit peu loin, donc pour des dates précises, etc., et des lieux précis, c'est un petit peu trop tôt, mais en tout cas, il va en avoir, et vous serez moins au courant, et j'espère vous y voir, c'est certain.
Ah bah. Avec grand plaisir, tu nous partageras ces dates et on se chargera totalement de tenir nos auditeurs au courant. Et est-ce que tu as une date pour ce nouvel album ou un titre à nous donner, une petite exclue?
Ah, il y a une date. Bah, je ne peux pas te donner une date précise, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que fin novembre, si bien peut-être. Attends, peut-être ça sera peut-être une exclusivité. Il y aura peut-être les CD. Pour le gala, ça sera encore mieux. Qu'est-ce que t'en penses comme excuse? Ça serait pas mal. Donc j'espère. Voilà, tout va dépendre du livreur maintenant. Et tout va bien se passer. Voilà, l'exclusivité, c'est ça. C'est cet album. Ça fait quelques années maintenant que j'y travaille avec mes musiciens. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que je suis pas seul. Voilà, j'ai des super musiciens tout autour de moi et qui donnent une énergie folle. Bon, moi, je suis un petit peu, entre guillemets, pour le gala, je suis un peu frustré, je peux pas venir avec tout le monde, hein, on le sait bien, mais en tout cas, c'est pas grave, pour une prochaine, on sera tous là, et voilà, j'ai vraiment envie, ça me tient vraiment à cœur que la communauté puisse continuer à me soutenir, parce que voilà, on est très présent ici en France et ailleurs dans le monde, et je pense que voilà, quand on fait les choses avec de la vérité, entre guillemets, et beaucoup d'âme. En tout cas, j'espère, c'est ce qui en ressort, en tout cas, j'espère. Voilà, ça mérite d'exister. C'est de l'autoproduction. J'ai par habitude de le dire, c'est de l'autoproduction, artiste indépendant, et tous les jours pour ça et je suis très fier de présenter ça.
Bah écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses et pour cette exclu du coup. On a vraiment de pouvoir écouter l'album. Tu nous tiendras au courant, compte sur nous pour le partager. Et puis bah on se voit rapidement au gala alors.
Exactement. Merci Julie. Merci à toute la famille Cap Magellan et à tes brefs.
Merci Miguel pour tes réponses. Restez avec nous, nous sommes avec vous jusqu'à 16h. D'ici 5 minutes, on parle d'une BD, une BD dont vous avez beaucoup entendu parler et dont une expo se trouve actuellement au sein de l'amphithéâtre de la Sorbonne à Jussieu dans le cadre du gala de Cap Magellan. Je parle bien sûr d'Astérix et Obélix en Lusitanie. Et avant cela, on s'écoute en entier S'en aller, le dernier single de Miguel Sol.
Ils ont quitté leur terre natale avec de l'espoir plein les mains, simplement pour une vie meilleure. Ils ont dû esquiver la bide, être futé, être rapide, donner de l'argent aux passeurs. Ils ont traversé les montagnes du Portugal et puis d'Espagne. Pour eux, leur chance, c'était la France. Marcher sur les sentiers à pied, c'était pas de la randonnée. Bravant le froid, la peur, au ventre, ils ont dû oui s'en aller, s'en aller. Ils ont dû oui s'en aller, s'en aller. Il fallait passer la frontière, sans faire le beau, sans faire le fier. Attention la guarda civile. Une fois passé, c'était gagné. À eux le train pour Austerlitz. À eux enfin la liberté. Des illusions à l'arrivée. Ce sera les planches d'Aubervilliers. Petit village, pied dans la boue. Un bidonville, c'est pas le rêve. Mais lorsqu'on est émigré, c'est déjà bien de travailler. Ils ont dû oui s'en aller, s'en aller. Ils ont dû oui s'en aller, s'en aller. Ils ont dû oui s'en aller, s'en.
Sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour l'interview autour du nouveau Astérix et Obélix en Lusitanie avec Fab Caro et Didier Conrad. C'est une interview réalisée par Hermano Sanchez Ruivo.
Je préside le groupe d'amitié des villes jumelées entre la France et le Portugal. Il y en a 270. La moitié fonctionne. Donc quand j'ai entendu parler enfin de ce Astérix en Lusitanie, bah, j'ai envoyé un peu un message à tout le monde en disant bah, vous là-bas, c'est autre chose, mais ici déjà, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc là, vous avez une trentaine de villes quand même qui vont reprendre cette idée de l'exposition, le kit d'exposition, pour ensuite en faire des séances de lecture, machin. Et ça, je trouve que c'est une spécificité qui, entre guillemets, n'existerait que pour cette partie les Portugais de France. Parce que ce que vous avez fait sur l'Italie, enfin ce que l'Astérix a déjà fait sur d'autres pays, bah, n'a jamais eu cette dimension liée à la communauté. C'est pas du communautarisme, mais c'est quand même une double culture. Et c'est pour ça qu'en découvrant, alors super, le 1-1, le S, enfin toutes ces utilisations sont effectivement appropriés, mais peut-être que la première question c'était est-ce que vous aviez déjà compris la Lusitanie, enfin parce qu'un pays qui s'appelle la Lusitanie, personne ne comprend jamais rien, ou c'est très rare de savoir que ça fait un lien avec le Portugal. Donc ce premier mot Lusitanie, comment
moi je connaissais un petit peu le Portugal pour y être allé en vacances 3-4 fois. Moi j'adorais le Portugal, mais quand il s'est agi de faire le Portugal antique, enfin la Lusitanie, j'avoue que je n'avais aucune connaissance historique de Lusitanie. Donc j'ai dû aller me documenter. Honte à moi, je ne connaissais pas Viriade, par exemple. Donc j'ai commencé à me documenter. J'ai découvert donc Viriade, enfin, l'importance qu'il avait pour le peuple portugais. J'ai découvert aussi, c'est ce qui a donné lieu à l'histoire, que c'était le premier producteur de garum qui était exporté dans tout l'Empire romain. Donc voilà, c'est ce qui a donné un petit peu le début de l'histoire, enfin qui a donné la trame de l'histoire. Mais j'avoue que non, quand j'ai démarré, j'avais aucune connaissance de la Lusitanie. Je connaissais le Portugal actuel, mais comme un touriste, pas beaucoup plus. Mais la Lusitanie, c'était assez limité mes connaissances. Ouais.
Et pour vous dire, la Lusitanie, ça faisait un lien automatique.
Un peu plus parce que, en fait, à cause d'Astérix, je me rappelle qu'on avait discuté avec Jean-Yves Ferry des endroits possibles. Et je m'étais un peu documenté sur la Lusitanie, donc je connaissais un peu Viriade, par exemple, je savais, mais en fait, je me rappelais mal. Je pensais qu'il n'avait jamais été vaincu. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai dit au début.
Oui, tu m'as fait peur.
Et je lui ai fait peur. Mais je lui ai dit, mais c'est pas possible. En parce fait, moi, les Romains n'avaient jamais conquis la. Et donc, ton histoire ne tient pas. Et puis après, je suis allé voir dans Wikipédia, mais comment est-ce que j'ai eu cette idée? Là, parce qu'en fait, je m'étais un peu documenté, donc j'avais un peu amalgamé des trucs, mais j'avais pas trouvé d'idée particulière. Jean-Yves n'était pas tellement sur développer la Lusitanie. Donc, quand Fabrice dit moi je vais faire ça, j'ai dit c'est super parce que vraiment c'est un pays qu'il faut visiter dans la série, parce que c'était évident depuis le début, depuis longtemps.
Ouais. Alors, notre tradition dit qu'il n'a jamais été vaincu, mais qu'il a été trahi. Donc, du coup, il y a cette ambivalence, mais le fait est que, de facto, il a été...
Mais ceci dit, c'était exactement la même histoire avec Vercingétorix. Il était trahi par d'autres chefs qui étaient plus ou moins jaloux de lui, parce qu'il avait été nommé chef de tous les Gaulois. Et il a été vendu il a été vaincu à cause de ces gens-là.
Ne connaissant pas l'histoire de l'arrivée du Lusitanien dans les autres Astérix, ma question, c'était l'une des questions quand j'ai entendu parler d'album, j'ai dit, est-ce qu'ils vont donner un nom au Lusitanien? Parce qu'il y a toujours le petit vent, on gagne quand même un prix en Italie, enfin, cette course, machin, elle est gagnée par les Lusitaniens, enfin, mais il n'y a pas de nom. Et donc, du coup, le choix du nom, est-ce que, et de façon générale, puisque je vois bien l'ensemble des noms qui sont proposés avec d'ailleurs ce jeu sur les différentes finalisations. Mais Boulkiès, pourquoi? Enfin, comment?
Alors la nomenclature en S, c'est pas moi qui l'ai établi, c'était dans l'album La Transitalique. C'est Jean-Yves Ferry déjà qui avait établi que
il avait mis deux noms.
Il avait mis deux noms en S,
mais je sais plus lesquels.
Donc moi j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une très bonne idée de continuer dans cette lignée. Donc après. Et après, ça a été très amusant à faire. Parce que les X et les U, on commence à voir un petit peu le tour, mais là, on partait sur une terre vierge avec les S, on n'avait jamais. Donc, ça a été très amusant de trouver des jeux de mots qui terminent par S.
Et c'est plutôt réussi, GPS.
Ah, super.
Il y a toujours ce décalage entre les plus anciens et les plus nouveaux.
Il y a les jeux sur les caractéristiques et tout ça, mais aussi le jeu sur les mots aussi. Pareil, les sions qui deviennent des ça, fallait trouver une approche, une caractéristique. Il fallait arriver à caractériser. Alors déjà, et la mentalité lusitanienne, et la langue aussi. Et c'était pas évident, donc j'ai trouvé ce truc-là de transformer les sions en sao. Voilà, pour caractériser un petit peu.
Oui, c'est bien parce qu'avec le tilde, ça c'est typiquement portugais, tu trouves pas ça dans une autre langue.
Non.
Et donc en fait, en le mettant systématiquement, ça passe bien. Puis après, les gens se font le jeu de se lire. Le mot avec cette transformation et ils reconnaissent, c'est bien.
Ouais, parce que surtout qu'il est gardé en français entièrement et après avec le aon qui vient se mettre un saon avec le DT.
Ben oui, ça c'est une tradition dans les Astérix. Quand ils vont dans un peuple à l'étranger, il y a toujours un jeu. Il y a des gimmicks de texte. Chez les Bretons, ils inversaient ils traduisaient littéralement les expressions. Les Espagnols, c'est olé à chaque mot. Donc là, il fallait pareil trouver une caractérisation. Donc j'ai trouvé ça. Et en plus, ça permettait de jouer aussi avec Obélix qui n'a pas complètement compris le code. Donc il le place n'importe où. Voilà, on pouvait s'amuser avec ça.
Mais alors, du coup, il y a la question dans la question, c'est est-ce que du fait d'être en France et que vous ayez forcément rencontré plein de Portugais ici en France, est-ce que c'est aussi une inspiration de ce que vous avez entendu ici? Parce que ça, c'est une des caractéristiques qu'on donne aux Portugais de France, les S.
Oui.
Moi, je m'appelle Sanchez, mais il y a les Pires, les Fernandez, les Gonçalves et tout ça. Et donc, cette espèce de S, est-ce que c'était une sonorité vous aviez déjà ou finalement elle est plutôt bien tombée à cause de ce qui avait déjà été fait.
Mais c'est Jean-Yves qui l'avait fait.
Ouais, donc c'était.
Ça fonctionnait, il avait bien.
En fait, c'était une question pour Jean-Yves.
Il y a deux choses en fait au crédit de Jean-Yves. Il y a ça et puis il y a le. Comment ça s'appelle ? Merde, j'ai oublié le nom.
Le Garoum.
Pour cet album, il y a ça.
Ouais, il fallait aller chercher le Garoum, mais en plus cette espèce de production.
Je commence à me soir de Lusitanie, donc le Garoum apparaît assez vite. Ouais, c'était le plus gros producteur de Garoum.
Je m'attendais absolument pas à ça. Parce qu'en fait, la question c'était quelle était la porte d'entrée pour que on aille chercher Astérix et Obélix et qu'on les ramène en terre lusitanienne. Donc évidemment, on pouvait imaginer une justice et des justiciers. Mais l'histoire est belle. Comment vous trouvez les noms j'ai vu certains personnages. Je m'attendais à Ronaldo quelque part. Je me suis dit, ça y est, il est trop. Est-ce que je l'ai raté?
Il est caché quelque part. Mais il y a un Ronaldo en
Parce que du coup, j'y suis allé super vite.
Là, j'ai lu trop vite. Le petit truc à trouver.
Mais il y a Ronaldo. Ronaldo okay.
Il y est deux fois,
mais sous forme d'enfant. C'est un enfant.
Ouais. Ok. Mais dans le village ou Non, bon, je chercherai.
Non, je chercherai.
Il est à Lisbonne.
Il est à Lisbonne.
Dans la rue, et je sais plus où tu l'as.
Ah, magnifique, parce que Amaya.
Il est devant le vase clos.
Oui.
D'accord.
Là où il y a le vase clos de Gama.
Oui, parce qu'il y a des journalistes portugais en visio qui nous ont dit vous nous avez oublié Ronaldo. Et là, l'ami,
mais justement, est-ce qu'il y a une liste quand on imagine parce qu'il y a la Lusitanie d'avant des Romains et des Gaulois et donc d'un temps passé, mais il faut être maintenant. Et je trouve que c'est plutôt réussi, y compris. Cette position des Français, l'énorme quantité de Français qui visitent le Portugal, ça, c'est très réussi aussi. Donc comment on liste finalement ces noms
C'est ça. Alors il y a les authentiques de la Lusitanie, puis il y a les contemporains et tout ça. Alors de l'époque.
Mais le choix,
bah, dans la Lusitanie, c'était Viriat,
évidemment. Ouais, ça.
Inévitable. Et après dans le contemporain, un petit peu ce qu'on connaît dans l'inconscient collectif. Il faut pas que ce soit trop pointu parce qu'il faut que ça parle à tout le monde. Donc ce qu'on connaît dans l'inconscient collectif de la culture populaire, les premiers trucs moi qui me sont venus, c'est Pessoa. Ils vont pas vous revenir maintenant. Il y a une chanteuse belgo-portugaise, Lio.
Ah, Lio, mais oui, Lio.
Lio, il y a un petit clin d'œil parce qu'il y a une chanson Les Brunes
contre les Brunes, bien sûr.
Il y a un petit clin d'œil. Il y a Ronaldo donc en petit garçon.
Alors Amaya, je l'ai
Amaya,
vu.
Amaya Rodriguez. Ouais.
Vous mentionnez le Benfica, ce qui est quand même plutôt cool avec cette femme.
Il y a le jeu de mots Vasco de Gama sur Vasco de Gama. Donc voilà tout ce qu'on connaît de la culture populaire. Bon, là je parle des personnages, mais après bon il y a le culinaire, il y a. Mm-hmm. Mais on voilà, essaye de prendre tout ce qu'on le plus populaire, ce qui marque l'inconscient. Voilà dans les personnages. Il y a le poème de quand il est sur le bateau. Volquez est sur le bateau et cite un extrait d'un poème de Voltaire qui est Tremblement de terre à Lisbonne. Donc ça, c'est un extrait d'un poème de Voltaire sur Lisbonne.
D'accord. Ouais,
donc il y a des références. Après, voilà, il y a des références, mais ça, c'est classique d'Astérix. On peut pas tout voir du premier coup, on verra pas tout, mais j'aime bien l'idée de semer des petits trucs comme ça.
Il avait écrit un truc sur ça.
Oui, le Tremblement de terre, c'était 1775.
Dans le Candide, en fait. Lisbonne, dans le Candide de Voltaire, il y a cette mention au Tremblement de terre. Ouais, de 1755, effectivement. Et alors, du coup, vous parliez des villes, c'était l'une des autres grosses questions. Il y en a quand même deux qui sont mentionnées. Il y a Olisipo, il y a également Faro dans le sud.
Ouais.
Après, c'est Limoges. Bon, c'est Limoges parce que je vais retourner à Limoges.
Et il y en a une qui est le village de pêcheur, le pêcheur existe vraiment.
Mais alors Nulo ou No?
Nulo ou No. Alors là, je l'ai rebaptisé.
Ouais.
Mais on est allé parce qu'à l'époque il n'existait pas. Mais on est allé un petit peu en repérage et on a vu ce lieu. Enfin d'abord on l'a vu sur internet avec Céleste. On a repéré un petit peu parce que je voulais qu'ils arrivent sur la côte dans un petit village de pêcheurs et qu'il y ait un périple jusqu'à Lisbonne. Et je cherchais un petit peu sur la côte. Et alors, on a repéré un village, on est allé sur place, on voit, et on s'est dit, voilà, c'est le village, c'est, j'aurais dû l'écrire, Assagnas de Mar.
Assagnas de Mar, exactement, Assagnas de Mar.
Voilà, faut que j'apprenne à le prononcer,
pour
les interviews portugaises, et voilà. Et quand j'ai vu ce village, je l'ai vu en photo,
d'abord. Au sud, d'ailleurs,
il remonte. Il y a une photo de ça.
Ouais.
Des photos à toutes les heures de la journée, moi, quand je me suis documenté, c'est pareil, j'ai pu choisir toutes les parties que je voulais à des heures différentes pour pouvoir faire la meilleure représentation possible.
Ils le savent, ça, Zeynep Jedomaj ?
Je ne sais pas. Il fallait que ce soit pas trop loin de Lisbonne pour pouvoir s'y rendre
en chariot.
Il fallait que ce soit au bord de la mer, que ce soit une petite crique de pêcheurs comme ça. Et quand on a vu ça, je me suis dit, ouais, c'est ça.
C'est génial parce que je m'attendais à Nazareth parce que dans les grands trucs, les vagues et compagnie. Enfin bon, bref. Donc c'est assez merveilleux. C'est l'avantage de 800 km de côte. Mais
celle-là est pas citée. On l'a rebaptisée parce qu'à l'époque, je lui ai donné un autre nom. Mais voilà, c'est vraiment à partir d'un vrai village.
D'accord.
Merci à Hermano pour ce beau moment de partage. Et pour finir cette émission en beauté, d'ici 5 minutes, nous serons en interview avec Miguel Mole, le chanteur phare de ce gala. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une musique qui vient de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Les sangliers d'Obélix.
Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger.
Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il n'y a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
Les petits coins frais, les bons gros, les gros. Pour manger et boire, pour jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va.
Les choses qui défixent.
Papa des pompes de pain, papa des pompes de pain, papa des pompes de pain, la pompe de pain.
Obélix, mon cher amour, je t'empirerai toujours, mais le roi des rois, désormais c'est toi, quand Obélix m'a tout fait.
Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va tout bas. Quand l'appétit va tout bas.
Continua na Rádio Alfa o programa Tempo Estado 2.1 está quase a acabar, mas ainda falta uma entrevista. A entrevista é do Miguel Moura.
Olá, Miguel, tudo bem?
Olá.
Então, Miguel, tu és cantor, natural de Moura, no Alentejo. Ficaste conhecido no programa All Together Now, na TVI. Tens uma voz que é descrita como encantadora. Começaste a cantar muito cedo, aos 14 anos, em casa da tua avó. Começaste com o fado. Porquê o fado?
Então, comecei com o fado. Pronto, antes de mais, novamente, olá. Olá a todos. Espero que estejam todos bem também. E comecei com o fado porque, pronto, na altura não havia mais outro registro musical senão o fado e o canto alentejano na casa da minha avó, porque era o que a minha avó ouvia na rádio. A rádio ainda há cassete. Naquela altura, pronto, surgiu um fado cantado pela Marisa e gostei da parte do refrão da gente da minha terra, quando ela levanta mais a voz, e então aquilo ficou-me na cabeça. Foi mais por aí. E foi por esse motivo que foi o fado. Podia ter sido outro registro musical ou não, também não sei, né? Mas pronto, foi o fado. Pronto.
E depois tiraste aulas para cantar? Ou?
Não, nunca tive aulas de voz, nunca tive aulas de canto. Tudo o que sei e tudo o que faço é por mim mesmo. Tenho vindo a evoluir também por mim mesmo, até em casa. A questão da respiração, por acaso, ultimamente tenho vindo a receber alguns conselhos e a pedir alguns conselhos por causa das técnicas de respiração e etc, com outros colegas que, também que, cantores, e pronto, e vou evoluindo assim. Mas nunca tive aulas.
E hoje como é que descreverias o teu estilo musical? Seria mais fado, canto alentejano, pop?
É, eu vou ser sincero. Houve uma altura que, e ainda há muita gente que me associa ao fado, mas eu não me vejo sinceramente associado ao fado. Eu acho que estou assim numa mistura pop, canto alentejano e balada. É assim uma mistura dos três. Eu acho que é isso. Tanto que o disco que vai sair em breve, nos próximos meses, que estamos a preparar o disco, acho que o disco, pronto, o mesmo dirá por ele próprio, né? Depois quem tiver o CD, quem puder comprar também e ouvir as canções que lá estão, acho que a resposta está lá, pronto, que não tem nada de fado mesmo.
É verdade, eu acho que as tuas últimas músicas para mim são mais próximas do canto alentejano e um pouco, sim, de pop, é mesmo essa mistura,
sim, com
a tua voz, que eu gosto tanto, e que acho que muita gente gosta. E acho que fica mesmo muito bem. E andaste a fazer também colaborações nos últimos anos, não é? Como é que escolhes os artistas com quem colaboras?
Agora a última colaboração que tive foi com o Chiaro, mesmo pop, que por acaso também é alentejano, mas já vive há alguns anos aqui neste lado de Lisboa. E pronto, e sou sincero, não fui o que escolhi. O Chiaro, surgiu o convite por parte do Chiaro e aceitei, e acho que até as vozes casaram muito bem, e acho que ficou uma coisa engraçada também. E a música está a ter um bom feedback também da parte do público. Isso é bom. Pronto.
Eu adorei, sinceramente.
Muito obrigado.
E tu começaste a ser conhecido muito rapidamente, depois do programa na TVI. Como é que lidaste com a celebridade tão súbita?
Cá está, mais uma vez, vou ser sincero, não... Achei tudo muito estranho, rápido. E é uma coisa que eu acho que não me adapto assim facilmente. Há algumas coisas que nos levam... Por exemplo, a malta fazerem de nós as vedetas, não gosto disso, não gosto. Sou uma pessoa, cá está, uma pessoa normal, uma pessoa como as outras. E às vezes metem nos rótulos também, por causa dessa dita fama e dessas coisas que eu não gosto nada de ser associado. Mas acho que estou a lidar bem, no sentido de aprender a aproximação com o público, que é uma coisa que gosto muito. E pronto, claro que há coisas que vejo do lado da fama que não gosto e que por mim não tinha que ser assim. Mas pronto, é o que é, faz parte.
Exatamente. E já fizeste vários concertos nos últimos anos, andaste a conhecer o teu público. Como é que calias o teu público?
Eu sou uma pessoa muito próxima, tal como disse agora, sou uma pessoa muito próxima do público, e acho muito importante também essa aproximação, até porque sem eles, isto foi uma frase dita pelo Marco Paulo, que esteja lá em descanso, em paz, né? E é uma frase que eu nunca me vou esquecer, que é: o Marco Paulo sempre foi muito grato ao público dele. Porque o público fez dele o artista que foi e continua a ser, pronto. E pronto, isso não me sai da cabeça, né? E foi uma coisa que me ficou no sentido, e realmente é verdade, nós somos o público, não somos nada. E temos sempre, pronto, um carinho especial para com o público, e é isso que tento sempre com o público. E acho que tem um público muito bom. Acho que é isso.
E vais cantar então na gala da Cap Magellan para um público lusodescendente em Paris. O que representa este evento para ti?
Sim, representa muito. Há uma, porque vou cantar para a comunidade portuguesa, né? para a comunidade portuguesa que se calhar não tem muito disto sempre, né? Digamos assim. É sempre bom cantar para os nossos fora, seja onde for, pronto. E pá, e acho que vou gostar muito, então espero que gostem muito da minha prestação e vamos ver como é que vai correr. Eu estou contente por ir atuar aí.
Nós também estamos contentes por te receber aqui. E o que tens de previsto como show, como músicas, o que podemos esperar?
Assim, agora até o final do ano já não tenho assim muitas datas, né? Por norma trabalha-se mais no verão, mas agora pronto, nestas fases mais paradas, fase do inverno, tentamos sempre fazer e terminar aquilo que temos a terminar em estúdio, que é o meu caso. Já estou a terminar o disco está, falei ainda há pouco, está mesmo para breve para sair, e antes de lançar o disco vou ainda lançar também. Cá está, mais uma vez, não tem nada a ver com o fado. E pronto, e espero que tenha uma boa aceitação também por parte do público.
Eu não duvido. Não duvido que vai ter. E querias voltar outra vez para Paris algum dia para fazer um concerto inteiro em Paris?
Sim, claro que sim. Com o projeto completo, que é por isso que nós estamos a trabalhar. E por acaso gostaria muito. É a minha estreia agora, não, na gala. É a minha estreia em Paris. E espero voltar muito mais vezes com o projeto completo.
Nós também esperamos por ti, porque queremos ver-te no palco em Paris, não é?
Seria bom.
Para acabar, queres deixar uma mensagem aos jovens dos descendentes aqui da zona de Paris?
E ainda sou muito bom com mensagens. Não sou muito bom com mensagens.
Então pode ser ao ouvir o novo disco.
Sim, é isso. É quando sair o disco, pá, que me façam esse favor, né? Conheçam o disco, que dê a vossa opinião. Partilhem muito também, caso gostem. Né? Se não gostarem, não vale a pena. E pronto, e é isso. E também deixar uma mensagem que a todos os jovens que devem fazer aquilo que sentem, o que têm no coração, né? Estou falando de sonhos e objetivos, e pronto, e seguirem sem medo e irem sempre à luta daquilo que querem para a vida, para o futuro. É isso.
Perfeito. Muito obrigada, Miguel.
Não, obrigado.
Obrigada, Miguel. Estamos ansiosos por te ouvir cantar daqui a pouco. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit tout de suite au gala de Cap Magellan. Pour ceux qui n'ont pas pu nous y rejoindre, j'espère que cette émission vous aura plu. Et pour tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. On se laisse avec Contigo para sempre de Miguel More et Chiaro, le dernier single de Miguel More. Et je vous dis bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
À la semaine prochaine.
Olha bem pra aqui de roda das palavras, a querer contar a história mais bonita que foi ter-te encontrado. Não vou mentir, estou assustado, tenho o coração rabiscado com textos que só falam coisas tão bonitas de ti. Será sorte a mudar? Oh meu amor, fica comigo, quero te dar todo o meu tempo. Se não te importares, quero ficar contigo para sempre. Contigo para sempre, contigo para sempre. Já fiz as malas para esta viagem.
Pedi ao chofer para ser sem paragens. E o bilhete que comprei para nós é de ida sem volta. Não quero voltar a estar só. Não vou mentir, estou assustado. Tenho o coração rabiscado. Com textos que só falam coisas tão bonitas de ti. Será sorte a mudar? Oh meu amor, fica comigo. Quero te dar todo o meu tempo. Se não te importares, quero ficar contigo para sempre. Se não te importas, quero ficar contigo para sempre. Contigo para sempre.
Tempestade 2.1, o programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas e podcast do site Rádio Net.
Tempestade 2.1.
Eu não aguento ficar assim. Mas passo o tempo, perco a coragem só de olhar para ti. E por mais que queira, fico sem chão. Só de pensar em te falar e tu dizeres que não. Pensar